Cela fait un mois, ou quatre semaines si vous préférez, que la guerre avec l'Iran a commencé. Alors comment évaluer ces quatre semaines? C'est la question que Blaise van der Linden pose à Daniel Abert, et une question à laquelle, bien sûr, il va tenter de répondre avec toute la sagesse et les connaissances qu'on lui connaît, justement.
Bonjour Daniel Abert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin pour nos traditionnelles conversations. Alors Daniel Abert, nous entrons dans cette quatrième semaine de guerre depuis donc le début des frappes israélo-américaines sur la République islamique d'Iran et sur le régime iranien. Nous avons vu énormément de têtes pensantes du régime qui se sont faites éliminer une par une par les renseignements israéliens. Comment est-ce que vous évaluez ces quatre semaines, Daniel?
Alors, vous avez noté qu'il y a une sorte de contradiction aujourd'hui entre Trump qui commence à parler de ralentir les opérations militaires, donc qui parle de désescalade, et au contraire l'Iran qui escalade avec les frappes épouvantables qu'il y a eu sur Dimona et sur Arad, avec des missiles qui semblent être de plus en plus sophistiqués, de plus en plus lointains et donc de plus en plus meurtriers. Donc comment analyser cette contradiction? Nous sommes au fond à un peu moins d'un mois de guerre, un mois de guerre face à un ennemi qui est lui extrêmement important, très puissant, grande taille, trois fois la France. Les gardiens de révolution, dans la révolution, c'est plus de 200 000 soldats. L'armée régulière, c'est également 200 000 ou 300 000. Des millions de supplétifs qui s'appellent les Basidji, qui peuvent faire du mal. Donc, on a affaire à un pouvoir qui est fanatique, qui est fort, qui depuis demi-siècle, utilise ses ressources d'un grand état pétrolier pour stocker des missiles, faire un programme nucléaire, armer des milices un peu partout. Donc c'est un ennemi extrêmement puissant. Il faut pas s'étonner donc que tout ça prend du temps. Si on veut faire un rapide bilan des trois premières semaines, la première semaine, c'est ce que les militaires appellent le choc et l'effroi. Et effectivement, la première semaine, Israël a été maître des opérations, en décapitant le gouvernement, évidemment Khamenei en tête, et en commençant à pulvériser les sites militaires. Mais très vite, c'est la deuxième semaine, les gardiens de la Révolution ont accepter les coûts, encaisser les coûts, et mis en place un plan de survie qui a été préparé depuis très longtemps. D'abord, ils ont pris le pouvoir, hein, en nommant le fils de Khamenei, qui est à la fois blessé et incompétent. Ils ont démontré qu'on n'est plus dans une république de religieux, mais dans une république de militaires. Donc, ils ont pris le pouvoir et ils ont mis en place ce qui avait été prévu depuis longtemps, c'est-à-dire la réaction face à un pays qui est très affaibli, c'est-à-dire petit 1, un système de remplacement automatique de toutes les personnalités qui sont éliminées. Donc, ça prend pas beaucoup de temps. Ça diminue la compétence, mais ça prend pas beaucoup de temps, et puis surtout la décentralisation des opérations militaires. Il y a 31 commandements qui sont répartis sur tout le territoire iranien, chacun avec son stock de missiles, de drones et sa liste de cibles, et le gouvernement central donne des ordres. Donc les ordres ont été pendant cette deuxième semaine d'attaquer tout le monde, Israël en priorité bien sûr, les bases américaines dans les pays du Golfe, et aussi punir les pays du Golfe qui acceptent les bases militaires américaines en touchant des objectifs civils et même certaines installations pétrolières, comme des cuves de stockage ou des raffineries qui ne touchent pas à l'essentiel encore. Tout ça avec beaucoup de drones dont on ne connaît pas les quantités, dont on sait qu'elles sont à la fois, les drones sont à la fois efficaces et pas coûteux. Alors, la troisième semaine, ça, on a noté, vous l'avez certainement noté dans vos émissions, qu'on est passé à la guerre du pétrole. Donc, avec l'objectif pour les Iraniens de créer un choc pétrolier comme celui de 73, en bloquant le détroit d'Ormuz et en frappant cette fois-ci les installations d'extraction de pétrole et de gaz. Donc, c'était une grande escalade à laquelle Israël a répondu en frappant ce qu'on appelle South Pars, c'est-à-dire la partie iranienne du plus grand champ gazier du monde que l'Iran partage avec le Qatar. Et la réponse des Iraniens a été de frapper l'unité qui transforme la partie qatari du gaz en gaz liquéfié, donc des usines de liquéfaction de gaz qui sont dans un endroit qui s'appelle Ras Laffan. Et donc les Iraniens pardon, ont mis à mal une partie des installations. Donc on entre dans cette quatrième semaine avec cette contradiction qu'on notait depuis le début, les Américains qui parlent certainement pour des raisons de politique intérieure de désescalade et au contraire une forte escalade des Iraniens qui ont été jusqu'à attaquer la base de Diego Garcia, c'est à 4 000 km. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que même sévèrement touché, l'Iran conserve des capacités qu'on est incapable de mesurer et que donc le danger est toujours là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le choc pétrolier n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que le détroit d'Ormuz, il n'est pas fermé, il est régulé, il n'y a pas de mine. Et on voit le pétrole qui se balade à 100 $ le baril. On a connu bien pire en 73, le quadruplement du prix du pétrole, en 2008 au moment de la crise américaine, en 2022 au moment de l'attaque russe sur l'Ukraine, les prix sont montés à 120, 140 $. Donc on n'est pas encore dans un choc pétrolier, on manque pas encore de pétrole, et donc on est dans une phase où surtout le monde entier maintenant est concerné et on ne peut plus surtout dire, comme le disaient trop longtemps les Européens, ceci n'est pas mon combat. Si, c'est devenu le combat de tout le monde.
Ce n'est pas ma guerre, hein, comme dirait le ministre des Affaires étrangères belge ce vendredi. Daniel, alors vous avez posé les bases, quelles sont les perspectives?
Bon, c'est un peu tôt pour en parler, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le plan militaire, les États-Unis et Israël ont encore beaucoup de travail à faire pour atteindre toutes les cibles qu'ils se sont données depuis longtemps, à la fois éliminer des personnalités, ça continue, mais surtout éliminer les sites de missiles, les sites de les rampes de lancement de missiles, et puis aussi terminer le travail sur le nucléaire en identifiant et peut-être en prenant ces 400 kilos de d'uranium enrichi qui se baladent. Bon, de son côté, l'Iran continue à avoir des capacités de frappe, des missiles et des drones dont on ne connaît pas du nom la quantité. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les stocks diminuent évidemment des deux côtés, sauf que les capacités industrielles de l'Iran pour les remplacer ont disparu alors qu'elles restent portent aux États-Unis et le coût des guerres, les coûts de la guerre devient très élevé, mais bon, les Occidentaux sont quand même beaucoup plus riches que les Iraniens. Voilà. Alors sur le plan de l'avenir du régime, bon, il est toujours là. Je pense que sa chute est probable, mais qu'elle est imprévisible. En tout cas, on sait maintenant qu'il n'y aura pas de révolte intérieure, elle n'est pas possible. On sait aussi qu'il n'y aura pas de débarquement extérieur. Donc la seule chose qu'on peut imaginer, c'est un craquage, un effondrement de l'intérieur du régime, soit spontané par des disputes entre eux ou des éléments qu'on connaît pas, mais aussi des négociations possibles qu'on pourrait appeler à la vénézuélienne. C'est-à-dire, peut-on trouver dans ce régime des leaders qui peuvent prendre le pouvoir, qui accepteraient contre le maintien du régime apparent, de changer complètement de posture, c'est-à-dire de ne plus être agressif, de ne plus développer de programme nucléaire, de limiter le nombre de missiles et de ne plus financer le Hezbollah et autres milices. Vous voyez, autres milices. Donc, vous voyez, c'est un rêve de trouver ça. Et donc, on est quand même dans cette incertitude. La dernière analyse qu'on peut faire sur le plan géopolitique, c'est ce que vous disiez, ce que disait le ministre belge à juste titre. Ce n'est pas ma guerre, sauf que maintenant, c'est la guerre de tout le monde. Donc, Donc ça, c'est clair que c'est pas tant le prix du baril qui devient un problème, c'est le risque de pénurie. Et donc c'est le déblocage du détroit d'Ormuz qui devient un problème qui concerne au fond tout le monde. Et il y a une forme d'organisation au niveau européen pour essayer de faire quelque chose. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les puissances extérieures qui sont restées silencieuses, la Russie, la Chine, qui se contentent d'envoyer ce qu'ils peuvent pour aider les Iraniens, c'est pas grand-chose. Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle? Là, ce qui est frappant, et j'en terminerai là, c'est que Trump, qui devait partir en Chine à la fin du mois, a décidé de reporter d'un mois. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire d'abord que son horizon de poursuite de la guerre, c'est au moins un mois. Donc, on a une réponse. D'ailleurs, il l'avait dit à peu près dès le départ, ça va durer 6 semaines ou plus. Donc, on n'est qu'à la moitié du chemin au mieux. Et surtout, qu'il n'a pas l'intention de faire entrer la Chine dans la géopolitique du Moyen-Orient. Il veut rencontrer Xi Jinping en position de force. Donc, ça ne peut être que par une victoire plus accentuée d'Israël et des États-Unis sur l'Iran. Et donc, voilà un peu les perspectives qu'on peut donner. Ça va encore durer et il faut marquer davantage de points, ce qui n'est pas acquis, mais qui va se jouer dans les prochaines semaines et dont on parlera certainement ensemble.
Bien sûr, hein, vous parlez de perspectives, on aura le temps d'élaborer ces perspectives dans nos prochaines conversations. Merci beaucoup Daniel Hébert d'avoir été avec nous ce matin, on se retrouve la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine, au revoir.